Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, puis faire des hommes par des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insultés si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous créper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait frangine, on n'aurait pas perdu son temps, unissant nos voix. J'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Radio Libertaire 89.4 sur la FM en région parisienne et dans le monde entier via Internet. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La radio sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste. Vous êtes bien dans Remue Méninges féministe comme tous les mardis de 12h30 à 14h30. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Catherine. En ce jour du 26 novembre 2024, au menu de l'émission, nous allons tout d'abord faire un retour sur la journée du 25 novembre 2024. 25 novembre étant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Évidemment que c'est très bien d'avoir une journée qui met en valeur, même si c'est pas une valeur, c'est plutôt une non-valeur, la violence, qui met en valeur les luttes, en tout cas, contre ces violences. Et pour nous, féministes, agir et réfléchir contre les violences, c'est toute l'année. Et nous allons partager avec vous plusieurs textes qui nous ont paru importants. Et puis, à 13h, nous accueillerons des participantes au podcast La Vie en Rouge et Sandrine Goldschmidt du Mouvement d'Uni pour parler d'une violence bien particulière qui est la violence du système prostitutionnel, la violence de la prostitution. Et donc, les animatrices du podcast La Vie en Rouge sont des personnes qui ont connu la prostitution et qui vont en parler en connaissance de cause et nous montrer en quoi c'est une violence. Et puis, nous terminerons l'émission avec quelques autres informations militantes et des conseils de lecture ou de spectacle ou d'exposition. Mais tout de suite, réfléchir sur le 25 novembre avec Zéro Macho.
Zéro Macho, des hommes engagés contre le système proxénète et pour l'égalité femmes-hommes. Elle a les yeux grands ouverts. Et nous, toutes les personnes ayant assisté aux audiences du procès des accusés de Mazan rapportent un fait marquant. Quand sont projetées les vidéos des viols infligés à Gisèle Pellicot, alors inconsciente car droguée par son mari, l'homme filmé se cache les yeux pour éviter de se voir en train de pénétrer sexuellement cette femme. Il en va de même pour Dominique Pellicot, organisateur de ces viols en Syrie. Pendant 10 ans, il a, entre guillemets, offert le corps de sa femme à des dizaines d'hommes et les a filmés, avec leur accord, pendant qu'il perpétuait ses crimes. Aujourd'hui, ni lui ni eux ne veulent regarder la réalité. Tous détournent la tête, fermant les yeux ou les cachant derrière leurs bras pliés. Regardez ce qu'ils ont fait est donc pour eux d'une violence insoutenable. Ces hommes ont vu des quantités d'images de films porno. Mais cette fois-ci, ils sont incapables de se confronter à la réalité de leurs actes. Et nous, voulons-nous voir ? Voulons-nous regarder la réalité en face ? Dans un rayon de quelques kilomètres autour de Mazan, il s'est trouvé des dizaines d'hommes pour profiter de l'occasion d'un mari offrant sa femme à des inconnus. Et si on étendait ce rayon à quelques kilomètres à tout le pays, combien d'hommes seraient prêts à violer une femme inconsciente ? Parmi les hommes qui ont violé Gisèle Pellicot, 51 comparaissent devant la justice et devant une femme qui, elle, ne détourne pas les yeux. Elle a demandé fermement et malgré les réticences du président du tribunal que les vidéos filmées par son mari des viols qu'elle a subis soient diffusées publiquement lors des audiences. Une décision d'un courage inouï qui donne une dimension historique au procès de Mazan. Elle a les yeux grands ouverts. Elle nous demande d'ouvrir les nôtres.
Autre réflexion menée dans le journal 50-50 magazine, qui nous vient par Internet avec une newsletter qui est très intéressante, à laquelle je vous suggère de vous abonner, 50-50 magazine, qui est un magazine que sur le net et où on trouve beaucoup d'articles pro-féministes. Sur les violences, une première autrice, Jocelyne Adrien-Medboul, s'interroge sur les violences, une affaire d'homme. Elle rappelle tout d'abord quelques chiffres. 50 000 féminicides par an sur la planète. 50 000. 736 millions de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou un autre homme, mais le plus souvent un proche. Des coups, des blessures, des maltraitances, des tentatives de viol, des meurtres. En 2020, année où la pandémie du Covid-19 a favorisé une explosion des violences domestiques, 137 000 femmes ont été tuées. L'équivalent d'une ville comme Limoges ou Amiens, ou encore Clermont-Ferrand, qu'on aurait rayé de la carte. Ces violences physiques, qu'est-ce que c'est ? Christelle Tarot, historienne, qui a dirigé Féminicide, une histoire mondiale, dit « Le féminicide est selon moi l'exécution d'une femme parce qu'elle est une femme. Le féminicide n'est jamais un acte spontané. Il y a une très longue histoire de violence avant le point d'orgue de cette violence, qui est la destruction physique de la personne. Hélas, à ce jour, le féminicide, qui est un crime systémique et sexiste, n'est pas encore reconnu comme tel dans le code pénal français. L'éventail des violences physiques et sexuelles qui mènent au meurtre dans un continuum des violences, cet éventail est large. Il comprend par exemple les mutilations génitales féminines, souvent présentées comme culturelles ou cultuelles, alors qu'aucune religion n'a jamais prescrit ces mutilations. Le mariage forcé, les grossesses précoces favorisent les violences masculines, dans un rapport de domination mentale et physique. La traite humaine en vue d'esclavage ou de prostitution concerne en grande majorité des femmes, lesquelles représentent 72% des victimes. Le viol de guerre est soit le fait d'individus qui s'approprient le corps des femmes, soit le fait de chefs militaires ou de bandes armées qui décident de l'utiliser comme arme de guerre pour humilier le peuple ennemi engrosser les femmes afin de le coloniser démographiquement, ou au contraire, détruire leur appareil génital pour empêcher qu'il se reproduise et se perpétue. Le corps des femmes est donc encore le champ de bataille des guerriers, le champ des violences masculines. Et l'impact de ces violences est énorme. Les victimes sont davantage susceptibles de souffrir de problèmes de santé chroniques, de douleurs, et hélas, il existe encore un arsenal d'autres violences, que sont les violences psychologiques, les intimidations, les manipulations, la surveillance, les menaces, l'humiliation, l'emprise, le contrôle, qui minent durablement la santé et la confiance en soi. Les violences économiques, selon la Banque mondiale, qui n'est pas un organisme réputé pour son féminisme intégral, la Banque mondiale estime que 2,4 milliards de femmes en âge de travailler ne bénéficient pas des mêmes droits économiques que les femmes. Ça veut dire la moitié des femmes de la planète, à peu près. Outre les inégalités salariales constantes à des degrés divers dans l'ensemble des pays, les femmes victimes de violences sont souvent contrôlées par leurs conjoints dans leur gestion de l'argent quand elles ne sont pas carrément privées de leurs ressources. Ce sont les violences institutionnelles aussi dont on ne parle pas suffisamment. Les institutions ne sont pas décorrélées du système patriarcal. Elles les nourrissent aussi. 2 milliards de femmes et de filles dans le monde n'ont accès à aucune forme de protection sociale. Elles représentent les deux tiers des personnes analphabètes. Elles forment la moitié de la main-d'œuvre agricole, tout en produisant 60 à 80% de l'alimentation. Elles sont moins de 15% des propriétaires des terres agricoles, car elles ne bénéficient pas du même accès que les hommes aux ressources productives et aux prêts bancaires. Sans parler de l'histoire de l'héritage, où bien souvent c'est les fils qui héritent et pas les filles. Alors quel est notre objectif de féministe ? C'est de mieux vivre ensemble. On peut se réjouir que les législations ont globalement progressé dans beaucoup de pays. Les instruments de la justice, au plan national comme international, s'y sont adaptés. Par exemple, pour tous les États aujourd'hui, le droit de vote pour les femmes est acquis. Les premières ont été les Néo-Zélandaises en 1893, les dernières, les Saoudiennes, en 2015. Ne reste que le Vatican à ne pas avoir légiféré sur le sujet et à s'interroger. Ils doivent encore se demander si les femmes ont une âme. Une majorité d'États a mis en place des mesures de protection et de pénalisation des violences, même si, hélas, elles ne sont pas souvent mises en œuvre à la hauteur qui serait nécessaire. Aux efforts des autorités nationales et multilatérales s'ajoute la mobilisation des mouvements féministes et activistes et leur pression sur les politiques. Leur force est cruciale et se propage toujours largement au-delà des frontières nationales qui l'ont vu naître. Du mouvement des suffragettes dans les premières années du XXe siècle pour le droit à la citoyenneté et au vote, au mouvement MeToo parti des États-Unis et autour du globe, via le cinéma, en passant par le collectif argentin Ni una menos, pas une de moins, contre les féminicides, les mouvements féministes et citoyens ont su réveiller les consciences. La force de cette société civile citoyenne et féministe peut devenir une dynamique puissante et irrépressible. Si elle est capable de rallier des hommes comme des femmes aux valeurs humanistes d'égalité et de justice qu'elle porte, alors elle sera capable d'éradiquer le fléau des violences liées à une certaine idée de la masculinité et de changer le monde. Chiche ? Interroge Jocelyne Adrian Medboul.
Et bien sûr, nous l'avons reconnu, c'est le générique par Miles Davis, le générique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle, avec le nom de l'actrice m'a échappé, mais c'est pas grave. Oui, voilà, avec Jeanne Moreau, évidemment. Et toujours sur Radio Libertaire 89.4, remue-ménage féministe, jusqu'à 14h30.
Et donc nous poursuivons notre réflexion à propos des violences subies par les femmes et les filles partout dans le monde entier, en partageant les interrogations de Moira Sauvage, qui sont exprimées dans un article qui s'appelle Violence masculine en question, mais qu'est-ce qu'on leur a fait, et qui est paru sur le site 50-50 Magazine. Elle s'interroge. Ne se serait-on pas trompé dans notre lutte pour dénoncer et éradiquer ces violences masculines ? Depuis des années, nous nous battons pour protéger les femmes victimes. Mais est-ce que cela suffit ? Comment ne pas se poser l'éternelle question de la racine de ces violences ? On sait en effet que le viol n'est pas de nature strictement sexuelle, qu'il s'agit au fond, bien plus, de pouvoir et d'emprise, et voire de haine. Haine du sexe féminin, volonté de détruire, que l'on retrouve aussi bien dans l'intimité du foyer que sur les champs de guerre. Pouvoir et emprise qu'on retrouve dans les aveux de Pellicot, ce violeur, organisateur de viol sur le corps même de sa femme. Il dit dans une de ses prises de parole lors du procès « J'ai voulu soumettre une femme insoumise ». On est là bien au cœur du pouvoir et de ce que se représentent ces violences. Et on le sait depuis longtemps. Andrea Dworkin, par exemple, écrivait déjà en 1974 dans son livre « Woman Hating » de la misogynie, en se fondant sur l'analyse du sort réservé aux sorcières, l'analyse de la pornographie ou le bandage des pieds des femmes chinoises. Je la cite, « Nous voyons la dimension du crime, les dimensions de l'oppression, l'angoisse et la détresse qui sont une conséquence directe de la définition des rôles en pôles opposés, des femmes définies comme charnelles, mauvaises ou autres. » Aujourd'hui encore, c'est la philosophe Olivia Gazalé, dans son livre « Le mythe de la virilité », qui s'interroge sur ce qui fonde cette virilité. L'histoire de la virilité est marquée par l'angoisse terrible, irrationnelle de l'impuissance. Autrement dit, ce qui fait l'homme, c'est de prouver, dresser, entrer, mouiller, fanfaronner. La virilité, c'est la preuve, l'érection, l'intromission, l'émission et la vantardise. Alors évidemment, pour déconstruire ce modèle de virilité, beaucoup de travail doit être mis en œuvre. Hélas, lorsqu'une ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, elle essaye de faire passer en France un programme d'enseignement contre le sexisme, les ABCD de la légalité, comment se fait-il que tant de boucliers se lèvent pour faire supprimer ce projet ? Hélas, le phénomène de backlash est bien connu de l'histoire. Et l'éveil des masculinistes ne laisse pas augurer du succès des prochaines réformes en ce sens. Les changements politiques non plus, et cela tout autour de la planète, où bien des dirigeants ne semblent pas choqués par l'arrivée au pouvoir aux USA d'un homme qui conseille d'attraper les femmes par la chatte, par l'entrejambe. Pourtant, de nombreuses publications ont vu le jour qui s'interrogent sur ce que doit être un homme aujourd'hui. Notamment Paul Virilio, l'histoire de la virilité, ou John Stoltenberg, refusait d'être un homme. Je pense aussi au livre de Pinar Selleck, qui a analysé comment se construit la masculinité dans le service militaire. Nous rêvons d'un monde où la sexualité masculine ne soit pas définitivement liée aux violences, mais soit liée au partage. Où lorsqu'un homme dérape, verbalement ou physiquement, son entourage masculin lui fasse honte, où les hommes violents accepteraient de ne pas se soumettre à leur colère intérieure, où chacun, chacune, serait profondément scandalisé par les situations de domination et d'inégalité. Nous rêvons d'un monde où les filles et les femmes n'auraient plus peur. C'est peut-être cela le féminisme, une utopie inachevée à laquelle il faut encore croire. Alors, pour continuer à réfléchir sur cette utopie inachevée, je vous propose maintenant de partager un petit outil conçu par Femmes Solidaires. Le plaintomètre, un peu sur le modèle du violentomètre dont on vous parle de temps en temps, qui est un outil que vous trouvez sur Internet en tapant violentomètre. Le violentomètre sert à mesurer la qualité de la relation avec votre compagne ou votre compagnon, avec un certain nombre de questions toutes simples. Est-ce qu'il vous respecte? Est-ce qu'il vous empêche de, ou elle vous empêche de voir vos amis ou vos amis, votre famille? Est-ce qu'il vous isole? Est-ce qu'il vous frappe? Etc. Et du vert au rouge le plus violent, on voit différentes étapes dans la relation et ça vous permet d'évaluer si la relation que vous partagez avec un amoureux ou une amoureuse est toxique ou est égalitaire, avec toutes les nuances entre les deux, bien sûr. Le plaintomètre est un outil pédagogique. Nombreuses sont les victimes qui n'osent pas franchir le cap du dépôt de plainte. On a peur de ne pas être cru, de ne pas être entendu. On a peur que la situation se retourne contre soi. On a la honte. Même si aujourd'hui la prise de plainte peut s'effectuer hors des murs des commissariats, dans un hôpital par exemple, ce n'est pas encore toujours le cas. Le gouvernement actuel semble vouloir le généraliser dans au moins un hôpital par département. L'accueil pour le dépôt d'une plainte est très inégal sur le territoire français. Dans certains lieux, la prise de plainte se passe bien parce que les gens ont été formés, mais ce n'est pas le cas partout. Le plaintomètre est un dispositif pour faire bouger les choses localement afin de sensibiliser les plus grands nombres. C'est un outil d'auto-évaluation pour franchir le pas, mesurer les conditions d'accueil et d'écoute, connaître ses droits ou encore les différentes phases d'une enquête. C'est un outil de sensibilisation et d'information pour les professionnels ou les associations pour mieux assister les victimes dès le dépôt de plainte et pendant tout le déroulé de l'enquête. Merci à Femmes Solidaires d'avoir construit cet outil et vous pouvez le retrouver sur le site de femmes-solidaires.org.
Même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavé, sans barricade, sans blessés, sans grenade, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné.
Et ce serait pourtant si bon de ne plus voir toute rejette la merde, de rejeter le quotidien, la misère de tous nos esprits, de se dire et se répéter que tout fissure, que tout pourrit, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans. On serait beau sans le savoir, mais il faudrait gratter la crasse. C'est fatigant de s'émouvoir sur tout ce qui nous fait pleurer. C'est reposant de regarder l'herbe, les femmes et les garçons, de jouir de tout sans trouble fait, les oreilles et les yeux en grève, de jouir de tout sans trouble fait, les oreilles et les yeux en grève. Dans de pauvres contrées martyrs, les vies s'arrêtent bien trop tôt, au fusil, à palme, à la scie, à la bombe, à dit au couteau, ou doucement dans le travail, les camps, les prisons ou l'exil. Tout se tient, tout se ressemble, la faim, l'ennui et la mort. Tout se tient et se ressemble, la faim, l'ennui et la mort. Nous sommes ici bien au tiède, dans l'angoisse démocratique. Pas de camp, pas de grandiose, on tue la tête à petit feu. Dans le ronron mécanique de la liberté machine et le droit républicain de voter pour nos gardiens, et le droit républicain de voter pour nos gardiens. Ce serait pourtant si bon de ne plus voir toute la merde, de rejeter quotidien, la misère de tous nos esprits, de se dire et se répéter que tout fissure, que tout pourrit, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans, qu'on va s'en foutre jusque-là et oublier qu'on est dedans.
Radio Libertaire 89.4, Remue Méninges féministe, jusqu'à 14h30. Nous venons d'entendre Dominique Grange de son album Notre Longue Marche. Chacun de vous et chacune de vous, bien sûr, est concerné. Et ensuite, Serge Ujirouyo de l'album Quartier de couleur, qui nous chantait Et si j'osais chanter la beauté des choses. Je vais vous lire un communiqué qui date du 21 novembre, donc je vais le mettre au passé, ce qui était au présent, puisque ça concerne la marche du 23 novembre concernant les violences contre les femmes. Contre toutes les violences faites aux femmes, nous avons défilé le 23 novembre. Féministes, engagées contre toutes les violences patriarcales, nous avons le 23 novembre, dans le cadre des mobilisations autour de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons défilé à Paris et dans d'autres villes, évidemment, du monde. Cette mobilisation était celle de la sororité avec les victimes, de la colère contre les agresseurs, de l'urgence face au décompte macabre des féminicides et des infanticides. Cette manifestation n'est toutefois pas celle de l'unité, et nous l'assumons. Parce que nous sommes féministes, notre place était dans la rue le 23 novembre. Parce que nous sommes abolitionnistes, nous sommes convaincus que le système prostitutionnel est constitutif de la domination masculine et que défendre le droit des hommes à acheter le corps des femmes est une violence de plus dans le cortège de la haine misogyne. Notre féminisme est celui de la défense des victimes du système prostitutionnel et de l'inaliénabilité absolue du corps humain. Dès lors, comment défiler derrière ou à côté de cortèges dont les mots d'ordre comportent la réglementation de la location du corps des femmes aux fins d'assouvir le plaisir masculin? Ce dilemme se pose chaque année avec davantage d'acuité. La clarification est nécessaire pour la lecture politique des enjeux féministes. En tant que militantes féministes, nous étions dans les cortèges de mobilisation dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. En tant que militantes abolitionnistes, cette présence ne constituait pas un soutien aux organisations qui ne reconnaissent pas la prostitution comme une violence contre les femmes et qui ne placent pas la protection des femmes face à toutes les violences sexuelles qui leur sont infligées au premier plan. Les signataires, ça a été signé par une vingtaine d'associations, dont l'Assemblée des femmes, la Clé, le Mouvement d'Uni, le Collectif féministe contre le viol et bien d'autres associations. Je vous passe la parole. Notre invité est dans le studio.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Elisabeth, bonjour Catherine, bonjour tout le monde.
Nous avons invité aujourd'hui pour parler avec une autre personne qui va arriver.
Elle arrive dans quelques minutes.
Qui s'appelle Rosalie.
Oui,
et qui est une des animatrices du podcast La vie en rouge. Et on va pouvoir découvrir avec elle la vie en rouge. Aussi bien la vie en vrai que la vie en podcast. Pour introduire ce sujet, parce que c'est évidemment un sujet... très d'actualité, puisqu'on parle beaucoup des violences, et que pour nous, féministes, la prostitution est d'abord une violence faite aux femmes. Je voudrais partager avec vous une tribune qui est parue dans Politis, et qui a été écrite par Christiane Marty, membre de la Fondation Copernic et d'Attac. Elle dit « La prostitution n'est pas une question individuelle, mais sociale. Alors qu'elle est souvent abordée sous l'angle du quotidien des personnes en situation de prostitution, soumise au contrôle policier et à une précarisation. Et il est évidemment indispensable de défendre les droits des personnes prostituées. Il est indispensable aussi de dénoncer le système prostitutionnel qui organise la marchandisation du corps des femmes. Elle regrette que dans le hors-série de Politis des corps et des femmes, cette question de la prostitution ne soit abordée que sous l'angle des personnes en situation de prostitution et pas sous l'angle du système prostitutionnel. Évidemment, Sandrine, tu vas être d'accord avec ce propos, puisque c'est aussi le propos du mouvement du Nid, qui est d'accompagner les personnes prostituées, mais aussi de dénoncer le système.
Oui, absolument, Elisabeth, et j'irai même plus loin, mais peut-être que Christiane Marty le dit après. C'est finalement un abus de langage de voir les personnes qui sont victimes en parlant de prostitution, alors que ça concerne d'abord ce que nous on appelle les prostitueurs, les clients prostitueurs qui achètent l'accès au corps des femmes pour du sexe et de ceux qui organisent le système, les proxénètes.
Alors elle développe effectivement sur le système. Elle dit « Ce système est très lié au trafic de drogue. Il génère d'immenses profits, en grande partie dans l'économie souterraine, en s'appuyant sur la traite des êtres humains et sur l'exploitation des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, des personnes racisées, issues d'ethnies minoritaires ou d'ex-colonies, des migrants et des migrantes ou des enfants. Selon l'Organisation internationale du travail, en 2021, la prostitution a généré les deux tiers des 217 milliards d'euros de profits illégaux liés au travail forcé. Elle concerne plus de 1,7 million d'enfants dans le monde. C'est énorme. La Convention internationale de 1949 a affirmé que la prostitution est incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine. C'est une violence, comme en témoignent les prostituées qui ont réussi à s'en sortir, les survivantes. Il faut écouter leurs paroles, et pas seulement la parole de quelques femmes qui affirment que ce serait leur libre choix. La première des libertés, le droit supérieur à défendre, c'est de pouvoir vivre sans devoir vendre son corps. Lutter contre la marchandisation généralisée promue par le capitalisme néolibéral commence par refuser que le corps humain, des femmes comme des hommes, devienne une marchandise. Car pour quelques personnes qui revendiquent ce choix et ou gagnent bien leur vie, c'est encore à voir, en étant escorte ou indépendante, combien d'autres sont victimes des proxénètes, dépendantes de la drogue, migrantes piégées par les pasteurs ou poussées par des contraintes monétaires? comme notamment de plus en plus d'étudiants et d'étudiantes qui financent ainsi leurs études. Comment parler de choix ? Et quelles seront les conséquences psychiques et physiques pour ces jeunes ? Il faut bien se rendre compte que la prostitution n'est pas une question individuelle, mais une question sociale, une question de société. On est toutes et tous concernés. Christiane Marty reconnaît que l'acte de prostitution entre deux personnes adultes consentantes dans un cadre privé peut toujours exister. Mais parler de travail du sexe, vouloir en faire un métier comme un autre, supposerait d'organiser la prostitution comme une institution de la société, ce qui reviendrait à mettre potentiellement toutes les femmes, surtout les femmes, sur un marché. Va-t-on défendre que bientôt soit créée une formation avec cette orientation à proposer dans les orientations scolaires ? Qui envisage cet avenir pour son enfant ? Et j'ai le souvenir d'un film qui a été réalisé, je crois, par Frédéric Pollet en 2016, en mobilisation pour arriver à une loi pénalisant notamment les clients, et où elle mettait en scène une conseillère d'orientation avec une adolescente et ses parents, adolescente un peu rebelle qui travaillait moyennement bien à l'école, et où elle propose aux parents d'envisager pour leur fille le CAP prostitution avec l'option fellation. C'était très percutant, le langage de cette conseillère. Elle montrait bien comment ça disruptait dans l'esprit de celles et ceux qui ont vu ce film, qu'on n'a pas envie d'apprendre à faire ça, quoi. On n'a pas envie de se considérer que c'est un métier pour ses enfants. Et en même temps, il y a un léger doute, parce qu'au moment où, moi je trouve dans ce film, parce qu'au moment où elle parle de ça, elle a un stylo dans les mains qui, à un moment donné, explose, et donc il y a un liquide blanc qui sort du stylo, et on voit le père de la jeune adolescente qui est tout interloqué, et on se demande, moi je me suis demandé en voyant les réactions de cet homme-là, si ça lui faisait pas plutôt avoir envie d'avoir une relation de prostitution ou pas. On s'interroge à son regard, et lui s'interroge.
Alors je pense que c'est vraiment important ce que tu dis, parce que, encore une fois, je vais redire un peu la même chose, c'est que on ne peut pas comprendre le système prostitutionnel si on ne pense pas d'abord à ceux qui en sont à la source, les clients prostitueurs, les hommes, 100% d'hommes, hein, à quelques exceptions près, qui sont en demande d'avoir du sexe avec n'importe qui quand ils veulent. Et il faut bien remplacer que c'est eux qui ont le choix dans la prostitution. Il faut qu'on arrête de parler du choix des victimes. On parle le choix dans la prostitution. Ce sont les clients prostitueurs qui l'ont, et les hommes. Et le regard de cet homme dans ce film peut-être fait écho à ça.
Oui, je pense. C'est qu'on sent qu'il réfléchit à ça. Et je sais, on ne sait pas quelle serait sa réponse.
Voilà, et aujourd'hui, on peut dire que dans toute l'idéologie qui promeut la notion de travail du sexe, il y a des gens qui disent clairement, aujourd'hui, parce qu'ils sont militants, oui, c'est pas un problème, oui, il pourrait y avoir des formations. Je veux dire, je pense que elles vont jusque-là, et sauf que c'est pas dans la réalité, c'est dans la théorie, parce que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Voilà, dans quel métier plus on est jeune et moins on a de compétences, plus on a de valeur, entre guillemets.
Voilà. Je vous lis maintenant la conclusion de Christiane Marty, parce qu'évidemment, je partage ce qu'elle dit. Une politique cohérente abolitionniste consiste à la fois à agir contre les réseaux proxénètes et à protéger les personnes en situation de prostitution. Il s'agit de leur garantir à elles les droits sociaux, la possibilité d'une formation, d'un emploi, d'un logement, etc. Mais en amont, il faut aussi mettre en œuvre des politiques ambitieuses de prévention, promouvoir l'éducation à une sexualité égalitaire et au respect d'autrui. Beaucoup reste à faire, effectivement, parce que moi, je me rends compte, en réfléchissant à cette question du système prostitutionnel, mais aussi à d'autres problèmes de société, que finalement, toutes les relations dans notre société sont dominées par la notion de domination. C'est-à-dire que tout est fait pour faire croire que les seules possibilités de relations humaines sont des relations de dominer et dominant. C'est jamais valorisé la question de l'égalité, du respect. C'est toujours la domination qui est valorisée, et c'est que ça qu'on peut regretter.
Voilà, c'est la domination, et c'est l'érotisation de cette domination, et la marchandisation de plus en plus grande. Alors moi, je voudrais quand même réinsister sur le fait que la loi de 2016, avant qu'on passe à la vie en rouge peut-être, la loi de 2016, elle prévoit ces dispositions que propose, dont parle Christiane Marty dans la tribune. Tout n'est pas mis en œuvre, loin de là, mais il y en a une quatrième aussi, qui est la pénalisation des clients prostitueurs et la condamnation à suivre des stages de sensibilisation. Et en fait, nous, on considère, et tous les abolitionnistes et les survivantes qui en parlent considèrent, que c'est seulement cette politique globale, totalement mise en œuvre de façon cohérente, humaniste et complète, avec des moyens financiers et humains, qui peut aboutir à un monde avec moins de prostitution.
C'est donc ça notre projet. On va vous faire quelques minutes, quelques secondes de silence sur Radio Libertaire, le temps que notre technicienne revienne à son poste et nous mette une petite pause musicale. Vous êtes toujours à l'écoute de Revue Ménage Féministe sur Radio Libertaire.
T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir, prends le total et tout le temps. Pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps de mesurer. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Les airs ont changé, au milieu de sablier. Pour passer le temps de l'éternité. T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir. Prends le temps de t'aller tout le temps. Dépêche-toi de tout faire, prends le temps d'écouter, le temps de mesurer. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Le soleil ensommeillé, les sommeils ensoleillés. Vivre de la pluie, de l'hiver aussi. T'as pas le temps de savoir, dépêche-toi de tout voir. Prends le temps de donner tout le temps que tu as. T'as pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps de mesurer. T'as pas le temps de penser, dépêche-toi de rêver. Prends le temps de trouver, le temps de te trouver. Les cascades de diamants n'arrêteront pas le temps. Quand tu t'en iras, tu te souviendras. Dépêche-toi de tout voir, prends le temps de coller tout le temps que tu as. T'as pas le temps de t'en faire, dépêche-toi de tout faire. Prends le temps d'écouter, le temps de mesurer. T'as pas le temps, t'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as pas le temps. Dépêche-toi de tout voir, prends le temps de donner tout le temps que tu as. T'as pas le temps, t'as pas le temps. T'as pas le temps, t'as pas le temps. T'as pas le temps de savoir. Dépêche-toi de tout voir, prends le temps de donner tout le temps que tu as. T'as pas le temps de tout faire. Dépêche-toi de tout faire, prends le temps de compter le temps des mesures. Les airs ont changé, oublié de saluer. Pour passer le temps de l'éternité.
À Brest, cette nuit-là, il fait humide et froid, il y a du crachin, un petit vent de suroît. Et le long des boulevards, les feux des réverbères découpent dans le noir des cônes de lumière, des cônes de lumière. Entre le port et la gare, attirant les regards, erre sur les trottoirs de longues silhouettes noires. viennent du Bénin, elles viennent du Nigeria, de pays de soleil, où l'on ignore le froid, où l'on ignore le froid. Elles ont 16 ou 20 ans, mais n'ont pas de papier, pas d'âge, pas de nom, pas de nationalité. Elles ont été vendues, dressées à coups de fouet, et violées et battues, jusqu'à tout accepter, jusqu'à tout accepter. On les a déportées, marquées comme du bétail, et à peine arrivées, vite mises au travail. On les a amenées en voiture par paquet, et là brutalement, jetées sur le pavé, jetées sur le pavé. Elles ignorent le nom de la ville, de la rue, et l'on parle une langue qu'elles ne comprennent plus. Elles n'ont pas de famille, ne connaissent personne. Ce ne sont que les filles que le monde abandonne, que le monde abandonne. Là au coin de la rue, elles sont à peine vêtues, et le vent vient glacer leur peau beaucoup trop nue. Ces filles aux yeux si tristes, mais à la peau de soie, on s'offre à la va-vite avant de rentrer chez soi, avant de rentrer chez soi. Leurs clients sont souvent d'honnêtes pères de famille, très honorablement connus dans toute la ville, qui ont parfois eux-mêmes une fille du même âge, et pour laquelle ils rêvent amour et mariage, amour et mariage. Oui, mais me direz-vous, ce sont elles qui racolent, et puis de temps en temps, il faut bien qu'on rigole. Il n'y a pas de mal à jouir de ces filles-là, c'est tout à fait normal, car elles sont là pour ça, car elles sont là pour ça. Sans vous, il n'y aurait pas les macros de la mafia, sans vous, il n'y aurait pas ces petites putains-là, qui grelottent à la fois, et de froid et d'effroi, et qui avant 30 ans vont mourir du sida, vont mourir du sida. Pourrez-vous dire, messieurs, que vous ne saviez pas?
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
On nous parle souvent du choix. Elles ont choisi, elles aiment ça. Elles savent où elles vont.
Nous, survivantes d'inceste, de violences intrafamiliales ou de prostitution, on cherche la dissociation.
Nous, les survivantes de la prostitution, on est les dernières oubliées du mouvement MeToo.
Moi, j'avais pas l'impression que c'était un métier, c'était un calvaire.
Maintenant, j'ai 58 ans, j'avais 45 ans quand j'ai commencé, alors...
Comment une banale jeune fille qui a pas spécialement de problèmes dans sa vie peut se retrouver sur le chemin de la prostitution?
Je suis survivante de la rue, survivante de la prostitution.
J'avais envie de tout détruire, de casser toute ma vie. Je me retrouvais dans la prostitution de nouveau.
On ne peut pas guérir le viol avec le viol.
On a survécu.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
On ne revient jamais complètement de la prostitution. Ça, c'est une certitude.
De 16 à 23 ans, j'étais dans l'industrie du sexe.
Je l'ai quitté en 2009, après 22 années, que je considérais comme un service utile à la société, alors qu'en fait, je me détruisais moi et je n'apportais rien à personne.
C'est une copine de copain qui m'a un peu entraînée dans le délire en me disant « bah moi, je me prostitue, c'est vachement bien, je me fais plein d'argent. » Et puis, si tu veux, j'ai besoin de certains services en plus pour des clients particuliers.
Je me suis sortie d'un rapport où il y avait de violence et de l'abus psychologique. Et j'étais dans un état un peu fragile.
Moi, j'étais victime d'inceste à partir de mes 2 ans et demi jusqu'à mes 18 ans.
Je le dis tout le temps que j'avais l'impression d'être une prostituée avant même d'être prostituée, parce que avec mon premier copain, j'essayais de le faire plaisir, mais comme je l'avais vu dans la pornographie.
Donc une femme se prostitue pas, c'est vraiment les hommes qui nous prostituent.
Je pensais que c'était moi qui avais le pouvoir.
Tout de suite, les hommes prennent le dessus. C'est tu feras comme moi je veux.
ces 22 années n'ont été que 22 années de viol, de violence, d'appauvrissement aussi, parce que même si tout le monde pense qu'on gagne de l'argent, on le gagne, on le dépense.
Quand vous avez de l'argent, vous dépensez beaucoup de l'argent et après il n'y a rien. Le client attend que vous vous habillez avec des vêtements qui coûtent très cher.
Le fait de m'apprêter pour quelqu'un d'autre et d'être dédié à son plaisir sans penser au mien, bah en fait ça m'éloignait de ce but et de cette envie de me dire bah, j'ai envie de ressentir du plaisir pour moi.
La grande partie de ma sexualité consiste à avoir été prostituée. Comme il y a une idée que la prostitution est un choix, encore une fois, non. J'avais l'impression que voir plus de gens, c'était la liberté sexuelle. Mais ça l'était pas, parce que purée, qu'est-ce que ça faisait un mal de chien.
Tu sais qu'il faut se rencontrer à mi-chemin dans une sexualité enthousiaste et heureuse. Pas que la femme mette ses sensations à off pour être un réceptacle pour ce que l'homme veut. Sinon, on est dans le viol.
Il y a une voie de lumière qui existe en chacun de nous, pour moi, et qui quand elle est explorée, est beaucoup plus libératrice et beaucoup plus heureuse.
La vie en rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution.
Radio Libertaire, Romu Méninges féministe jusqu'à 14h30. Avant l'extrait du podcast La vie en rouge, nous avons entendu qui sera commenté par nos invités qui sont présentes actuellement dans le studio de Radio Libertaire. Nous avons entendu chanter Catherine Lara la chanson T'as pas le temps avec l'ensemble Sirba Octet de l'album Au cœur de l'âme yiddish. Et ensuite nous avons entendu Claude Michel qui chantait sa chanson Brest et qui nous a quittés dernièrement tranquillement dans son lit. Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Vous êtes bien dans Romu Méninges féministe.
Et donc nous accueillons Rosalie et Sandrine qui vont nous dire comment leur est venue l'idée de créer ce podcast La vie en rouge.
Alors, est-ce que je commence, du
coup ? Voilà.
Donc, moi, je travaille au mouvement du Nid, je suis militante féministe abolitionniste depuis de longues années, je suis notamment rédactrice en chef de la revue trimestrielle Prostitution et Société. Et dans le cadre de la revue, depuis plusieurs années, notre comité de rédaction s'élargit et invite de plus en plus régulièrement et souvent des survivantes de la prostitution que nous connaissons, qui ont parfois témoigné elles-mêmes dans la revue ou qui viennent dans les événements parler, etc. Et c'est au sein du comité de rédaction qu'une survivante a commencé à parler de tous les sujets de ce qui venait après la période de prostitution et dont elle aimerait parler. Et ensemble, on a eu cette idée que ce serait bien d'en parler sous forme de podcast. Ensuite, elle a choisi de mener sa vie un petit peu en dehors du monde militant pour l'instant. C'était pour le coup, elle a le droit à l'oubli pendant un temps qu'elle
soit. C'est
un vrai choix, voilà. Et parallèlement, il y avait d'autres survivantes femmes qui étaient là et qui, elles, ont trouvé que ce serait intéressant de poursuivre ce qu'on avait commencé. Et donc, ça fait... Rosalie va pouvoir enchaîner à partir de là. En décembre 2022, on a fait un premier espèce de comité de rédaction du podcast, on va dire. On avait déjà obtenu de la Cité Audacieuse, hein, le lieu de la Fondation des Femmes au centre de Paris, d'avoir accès au studio La Poudre d'enregistrement de podcast. Et donc, on a fait un premier comité de rédaction sur place où, à ce moment-là, vous avez décidé de ce que vous vouliez dans La Vie en Rouge.
Oui, c'est ça. En fait, je ne sais plus qui est-ce qui en a parlé, mais c'était vrai, c'était un sujet dont on s'est tous emparés, en fait. C'est ça qui était chouette quand ça a été mentionné qu'on pouvait faire un podcast et que ce serait organisé, etc. Ça a vraiment été un accord de toutes les survivantes qui étaient là de faire vivre ce podcast, de créer ce podcast, de l'imaginer, etc. Et à partir de là, même les thèmes, les choix des sujets, de qui parler avec qui aussi, est-ce qu'on était seul, est-ce qu'on était avec quelqu'un, pour chaque enregistrement. C'était vraiment quelque chose qui a été choisi par chaque personne qui était là. Donc c'était, on a eu plein de rencontres en fait au fur et à mesure. Au début, donc cette réunion là, puis après on s'est rencontrés tous pour faire les premiers enregistrements. Et ensuite on en a fait, pas chacun a fait en fonction du nombre qui faisait sens et puis de l'énergie qu'elle avait et puis de ce qui lui importait de dire pendant le podcast quoi.
Et toi, par exemple, quel a été ton premier sujet ?
Alors, le premier sujet, le truc qui m'a le plus marqué et qui nous a le plus marqué, je parle au pluriel, nous sommes un système. Du coup, c'est, je pense, c'était le fait de parler de l'entrée en prostitution, du moment où on y était, et puis de l'après. C'est-à-dire toute une sorte de notre histoire. Oui, c'est ça, de faire entrer la prostitution dans un tout.
Et ça, c'est les trois premiers épisodes du podcast où Rosalie, qui est le nom syncrétique de Choisie, est en dialogue avec Alexine, qui est aussi une survivante qui intervient beaucoup. Et l'effet de ce dialogue, c'est très impressionnant. Et moi, donc, moi j'étais en soutien éditorial, logistique, financier, organisationnel du mouvement d'Uni. On était là, j'étais là avec Claudine Legarnier aussi pour l'enregistrement, mais on était à l'extérieur du studio. On a préparé ensemble et ensuite elles sont allées toutes les deux dans le studio et nous on a entendu qu'après ce qu'il y avait, ce qui n'était pas le cas à chaque fois, mais là pour le coup c'était ça.
Oui, c'est vrai que c'était intéressant de parler avec Alexine et d'être vraiment en direct parce que en réalité c'était libératoire, c'était facile et donc il y a des choses qui ont été dites pendant notre conversation qu'on ne dit pas aux gens. Qu'on ne dit pas facilement, qu'on ne raconte pas parce que c'est trop ou c'est difficile ou les gens, on a peur d'être mal compris. Et donc, on ne le dit pas, en général. Et donc là, pour le coup, vu qu'on était en face l'une de l'autre et qu'il y avait il y a une certaine complicité entre nous et qu'on se connaît déjà d'avant, mais sans... Le podcast, ça nous a quand même... comment dire ? Ça a créé des liens d'amitié qui n'existaient pas autant avant. Et donc, c'était... Je ne sais pas, ça a vraiment... C'était une sorte de thérapie collective, cette conversation. Ouais.
Ça veut dire en fait que pour pouvoir parler de ce qu'on vit quand on est dans la situation de prostitution, il faut être vraiment dans une relation de confiance.
Ah,
on
ne
peut pas en parler comme ça.
Bah, ça dépend où est-ce qu'on en est dans son histoire. Je pense que si on est assez fort sur ses appuis, on peut en parler à des gens qui n'en ont pas, enfin, qui ne connaissent pas ou qui... comment dire, qui ont des préjugés, etc. Mais c'est pas facile d'être fort sur ses appuis. Il y a tellement de choses, ça blesse tellement, ça rend tellement fragile que, en fait, c'est dangereux presque, parce que les gens peuvent être bien intentionnés et dire des choses qui font mal, et puis... Donc c'est très... c'est très vulnérable d'en parler quand on a fait partie de ce monde-là.
Et du coup, si je peux ajouter, c'est vrai que le cadre du studio du podcast, c'est un lieu intime, de confiance, et aussi par rapport à toutes les sollicitations que moi je reçois pour les survivantes, pour les femmes, pour témoigner, où on ne sait pas ce qui va être fait de notre parole derrière, là, pour le coup, c'est important de dire, quand on dit un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution, c'est que votre participation ne s'est pas arrêtée là.
Non,
vous avez aussi fait le montage avec nous.
C'était la question, justement, effectivement. Du coup, une fois que vous avez fait un premier enregistrement, vous vous réécoutez et vous validez le fait de diffuser ou pas, par exemple, ou de reformuler, de reconstruire les propos. Vous travaillez...
En fait, la plupart du montage... alors, moi, j'en ai fait une grosse partie de mon montage. J'ai pas tout fait parce que c'était très dur de me réécouter et que, comme dans le système, on n'est pas tous au même niveau d'information, comme on a de l'amnésie entre les différentes parties. Donc, il y a des choses qu'on pouvait pas vraiment réécouter à une époque. Aujourd'hui, on a déjà tout réécouté, mais à une époque, c'était compliqué. Donc, en fait, on a coupé des choses qui se coupent au montage de manière classique. Et il y avait des points où... par exemple, on avait dit des choses et on voulait pas que ça sorte. Donc, on a coupé des phrases qu'on voulait pas dire ou des choses. Après, ça dénature pas du tout les propos, mais c'est vrai qu'on a validé la version qui a été finie. Mais on a aussi participé vraiment, seconde par seconde. Enfin, s'il y avait des choses qui nous dérangeaient, des choses où on se disait ils vont mal comprendre ce truc-là, j'ai pas envie que ça soit dit, etc. On pouvait les couper. Donc, et chaque survivante a vraiment participé au montage de son propre podcast, ce qui est vraiment génial parce que ça nous apprend beaucoup. Et puis, c'est un sacré travail de se réécouter dire des choses comme ça.
C'est compris, je pense un peu, ça fait un peu office de reconstruction d'estime de soi, de réappropriation de son histoire.
Oui, il y a une forme de ça. Il y a un côté aussi travail du déni qui est très important parce que c'est une, pour toutes, je pense que c'est une histoire qui est très difficile et qui est du coup c'est facile de tomber dans le déni ou de minimiser ce qui s'est passé. Et quand on se réécoute parler soi-même de ce qui s'est passé, c'est difficile de... Enfin, c'est plus dur de tomber dans le déni. Il y a un... Pour moi, quand ça a été diffusé, il y a un avant-après de déni. De se dire vraiment, de me dire, ah bah, du coup, maintenant, c'est diffusé, donc bah, ça doit être vrai. Sinon, je... Enfin, et le déni, c'est pas rationnel. Hein. Ça peut partir complètement dans l'imaginaire. Et c'est pas... Voilà. Donc, mais le fait mais de dire c'est vrai, c'était lourd.
De ce que j'en ai compris... Moi, j'ai l'impression que le déni, c'est aussi parfois une forme de protection.
Ah oui, complètement.
Ça
complètement.
N'est pas mal en soi, c'est pas un mensonge. Non. C'est pas fait pour nuire à qui que ce soit, c'est fait pour se protéger, j'ai l'impression.
Oui, c'est ça, c'est qu'on n'a pas les armes pour avancer. C'est qu'on n'a pas les capacités, la capacité d'avancer et de se dire que c'est vrai. Et puis, c'est un peu une. Pour moi, j'aime bien l'image de l'oignon. C'est-à-dire que c'est un oignon, le déni. On a des couches de déni. On peut enlever une couche, mais il y a le déni de dessous, et puis il y a le dessous, et puis il y a le dessous. C'est pas un truc juste. On sort du déni, et puis c'est fini. C'est un processus.
Et on pourrait dire. Je pense que c'est très important de parler de ça, parce que comme dans nos émissions en ce moment, on parle beaucoup autour du 25 novembre et des violences faites aux femmes, et je pense que c'est valable aussi pour toutes les violences qu'on subit. Cette question du déni. C'est posé aussi par le procès Pellico, c'est l'histoire de la honte. Bien souvent, c'est les victimes qui ont plus honte que les agresseurs, les violeurs, les clients de la prostitution. Ils n'ont pas honte. C'est rare qu'ils ont honte. Et même dans, on le voit dans ce procès terrible, ces hommes-là, ils ont même à peine honte d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment terrible, quoi. C'est eux qui devraient avoir honte. Et c'est les victimes qui se sentent obligées d'avoir honte et qui sont donc pour essayer de s'offrir un peu moins et du réel et de la honte, utilisent cette protection qu'elles dénient.
Enfin, j'en profite juste pour la perche que tu tends pour dire que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on est en train de préparer pour notre revue Prostitution et Société. Le prochain numéro, ce sera Que la honte change de camp avec la figure de Gisèle Pellico et une réflexion sur le procès. Mais en élargissant au fait que ce déni, cette honte des hommes qui passent les uns après les autres à la barre en disant que c'est moi la victime en fait, enfin ce genre de choses... j'ai eu Rosane Hichère, une autre survivante que vous connaissez bien et qui est dans le podcast et qui m'a dit hier, mais enfin c'est incroyable, la défense de tous ces hommes, c'est la même défense que celle des clients prostitueurs qu'on entend en stage de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels, donc qui est fondée sur le mensonge, sur le fait de se faire passer pour la victime, etc. etc.
Oui, alors c'est vraiment moi. Je pense pas qu'ils aient pas honte. Je pense que là, alors il y a deux choses. Les victimes qui ont honte. La honte, c'est souvent c'est considéré comme un symptôme d'un trauma. Donc, c'est presque un automatisme du cerveau, de protection aussi, parce que ça fait mal et que la douleur, en fait, ça fait trop mal. Et que ça, c'est comme le déni, c'est un peu comme la honte, ça s'enlève en couche. Et plus on enlève la honte, et plus on est en colère, et plus la réalité devient, devient tangible et réelle. Et en fait, on en arrive à notre douleur réelle. Et c'est vraiment un processus parce que c'est super intense comme douleur. Donc on ne peut pas y arriver direct. Et donc la honte, en fait, elle cache la douleur, mais on peut pas... Enfin, je pense que c'est vraiment un mécanisme du cerveau qui se crée presque automatiquement. C'est pas les victimes, elles choisissent pas d'avoir honte, et c'est vraiment un symptôme. On ne peut pas vraiment y échapper, en fait. Et par contre, la honte, en termes de social, c'est une émotion qui est très sociale. Donc en fait, les agresseurs et... Ben, ils se complaisent entre eux. Hein. Je veux dire, il y a un côté, si toi t'as pas honte, ben moi j'ai pas honte, et puis tout le monde a pas honte. Mais si la société dit, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, vous devriez avoir honte, ben il y a un côté, et du coup, ben en fait, elle se crée comme ça, quoi, par le fait de dire, ben ça se fait pas. Ça se fait pas ce que vous faites.
Et c'est la grosse partie de l'entre-soi masculin, et Rosalie a d'ailleurs participé à l'élaboration de ce dossier qu'on est en train de Claudine Le Gardini a rédigé derrière. Et voilà, c'était très important d'avoir cet aspect-là.
Il y a un dernier truc que je voulais dire, c'est souvent quand les... Parce que Donc, moi, sache-nous, on a été agressés par des groupes entiers d'hommes à une époque. Donc, on avait quoi, 15 ans, 16 ans. Et en fait, c'est vraiment... c'est un peu le même mécanisme que pour les victimes. C'est-à-dire que quand, pour en arriver à agresser quelqu'un comme ça, en fait, c'est petit à petit, on réduit et on dépasse des barrières psychiques de la personne jusqu'à ce que elle banalise ce qui est en train de se passer, mais à un niveau complètement délirant. Et en fait, dans les groupes d'agresseurs, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y en a un qui le fait, et puis l'autre qui le fait, et puis qui banalise pour l'autre, et puis ça banalise, ça banalise, ça banalise, ça banalise, et donc l'échelle de la violence, elle devient énorme. Alors que
ça fait que augmenter les degrés de violence exercés.
Un s'autorise, l'autre s'autorise aussi, et puis finalement, c'est peut-être pas si grave.
Se complaisent et s'encouragent les uns les autres à être de plus en plus violents. C'est sûr.
Et souvent, c'est au bénéfice d'une... Enfin, alors dans mon cas, par exemple, c'était au final au bénéfice de mon proxénète, parce que c'est lui qui se faisait du fric. Donc, c'est lui qui encourageait et qui banalisait la situation, parce que c'était complètement dans son intérêt.
Thank you.
Par leur musique, le trio Joubran, composé de trois frères musiciens de oud que nous venons d'entendre, ce magnifique instrument, rend hommage aux luttes et à l'oppression des peuples autochtones et affirme en particulier que leur musique prend part à la lutte du peuple palestinien pour la reconnaissance et la libération. Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, remue ménage féministe jusqu'à 14h30 avec nos invités dans le studio.
Nos invités, Rosalie et Sandrine, merci de participer à cette émission qui nous oblige à nous interroger et à nous questionner sur nos préjugés concernant le système prostitutionnel. Vous avez conçu et réalisé un podcast qui s'appelle La vie en rouge. Est-ce que vous pouvez dire comment on peut l'écouter? Quels sont les liens possibles hein, sur Internet?
Alors, La vie en rouge est un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sont 10 ou 12, et également sur YouTube. Et également sur le site du Mouvement du Nîmes, mais ça ne sera pas forcément l'endroit le plus. Pour l'instant, c'est un podcast qui a été le plus écouté sur Spotify. Et donc vraiment c'est disponible sur toutes les plateformes. Pour le trouver, il faut taper La vie en rouge, le podcast conçu et réalisé par des survivantes de la prostitution, puis on le trouve facilement.
Comment vous est venue l'idée de prendre ce mot et à quoi ça fait référence pour vous?
Alors en fait, le titre du podcast, ça a fait l'objet d'un vrai atelier de réflexion entre toutes les survivantes qui étaient là. Donc on a vraiment eu plusieurs étapes de choix, etc. Et c'est Alexine qui a trouvé ce titre-là. Je pense qu'elle faisait référence à la fois au côté la vie en rose et l'idée que la prostitution, c'était un peu la vie en rose, qu'on avait beaucoup d'argent, etc. Qui était, le but étant de dire, ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Et le côté aussi la vie en rouge, qui du coup fait référence, le rouge, souvent à ce qui est la prostitution et les quartiers de prostitution et comment est-ce que ça se passe dans ces zones-là, quoi.
Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez mis le podcast en ligne? Quel type de retour vous avez eu et qu'est-ce que vous avez fait pour le faire connaître?
Alors, on l'a lancé le 18 mars de cette année. Il y avait 18 épisodes diffusés chaque lundi jusqu'au 15 juillet à peu près. Et donc, en amont de cette sortie du podcast, on a fait un dossier de presse, une campagne de communication. Alors, quand je dis « on », c'est le Mouvement du Nîmes, mais aussi toutes les femmes qui ont participé, qui ont lu le dossier de presse, qui ont donc fait l'atelier d'écriture du titre, etc. Et ensuite, on a fait une soirée de sortie du podcast à la Cité Audacieuse, toujours, en présence de presque toutes les femmes de 4 ou 5 des femmes qui y avaient participé, parce qu'il y en a une quand même qui était au Québec, une en Angleterre, donc elles ne pouvaient pas être là régulièrement, mais en tout cas, elles ont enregistré à l'occasion de leur passage en France. Et donc cette soirée a permis ensuite, évidemment on a fait des campagnes de réseaux sociaux, on a un compte Instagram de La Vie en Rouge qui est co-animé par moi et par Lexi qui est aussi dans le podcast, et donc ça a été beaucoup largement diffusé à partir de là. Et à ce jour, on a 80 000 écoutes, ce qui est formidable, pour faire entendre un autre discours. Et on en reparlera peut-être après, parce que là, je vais laisser Rosalie dire un peu comment on a fait cette soirée, comment ça s'est passé. Mais voilà, ça a mené à des choses par la suite.
Oui, en fait, on a eu une soirée, je ne sais plus quand est-ce que c'était, au lancement.
18 mars.
18 mars, oui, c'était ça. C'était très touchant, en fait. On s'est toutes retrouvées. En fait, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas toutes vues, parce qu'on n'a pas forcément enregistré le podcast au même jour, etc. Donc là, qu'on soit toutes là à se dire, ça y est, on y va. c'était intense, c'était quelque chose. Et puis, c'est quelque chose de dire les choses derrière un micro, c'est complètement autre chose de se présenter face à tout le monde et à parler et montrer sa tête. Et c'est pas forcément... c'est un autre type de vulnérabilité. Moi, j'avais du coup la charge de donner la parole et d'écouter, etc. Ce que j'ai vraiment adoré faire, parce que je me suis rendu compte que c'était...
comment dire, c'était presque une évidence de faire ça, de s'écouter et de valider les points de vue des uns et des autres, des unes et des autres. Et c'était pas forcément quelque chose qui nous sépare, mais quelque chose qui nous rassemble au final, qu'on ait tout quelque chose à rajouter et une pierre à apporter à cet édifice. Donc c'était vraiment une belle soirée et j'ai un très bon souvenir.
Est-ce que tu peux partager avec nos auditrices et auditeurs quelques réactions de la salle dont tu te souviens?
Bah, les gens étaient très contents. Ils sont venus nous remercier à la fin, nous dire bravo aussi. Je pense que c'est comme c'est une parole qui est très peu... on donne pas beaucoup la parole aux survivants. Donc en fait, c'était touchant de voir que les gens voulaient nous écouter. Il y avait vraiment beaucoup de monde dans la salle. Il y avait des gens qui étaient debout au fond. Il n'y avait plus de chaises. Donc c'était vraiment... Je sais pas... ça donnait l'impression que si on touchait toutes ces personnes-là et que ben ils avaient vraiment l'air de vouloir écouter, et ils étaient vraiment là pour nous. En fait, ils allaient eux-mêmes en parler à d'autres et puis ça allait faire des petits et des petits. Et au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec le podcast. Donc ça, c'était chouette.
Et moi, j'aimerais bien dire quelque chose. Moi, je suis journaliste de formation. Et les journalistes, souvent, ils ont, c'est eux qui posent les questions, c'est eux qui savent et qui vont vers les gens et qui leur laissent une petite place, une petite parole. Je suis un peu critique envers ce métier de façon générale.
Oui, mais moi, je vois ça beaucoup, notamment à la télévision. Je trouve que je déteste les débats, généralement à la télévision, parce que en fait, c'est les animateurs qui parlent. Ouais. Et accessoirement, ils donnent un peu la parole aux autres, mais au fond, c'est pour se faire valoir eux et pas le contenu de ce que des personnes peuvent apporter. Voilà.
Et moi, j'ai découvert, parce qu'à côté de ça, c'est vraiment un métier que j'adore, sur ses principes fondamentaux, c'est d'élargir la vision du monde, etc. Et ce que je trouvais extraordinaire, deux choses avec, en étant associée avec les survivantes dans ce podcast, c'est d'abord que Rosalie vient de le dire, il n'y a pas que moi qui s'est animé une soirée, elle aussi sait très bien faire, et c'est pareil quand elle préparait les podcasts, etc. Et ça, c'est aussi ouvrir un espace où il y a la possibilité de se découvrir d'autres compétences et d'autres capacités de faire. Et si vous écoutez l'épisode 17 de La Vie en Rouge, Ma Voix, Une Force, vous allez entendre les 7 survivantes dire ce que ça leur a fait, le podcast. Et ça, c'est, je pense que, alors moi, ça me provoquait une émotion extraordinaire. Et la deuxième chose, mais très rapidement, je voudrais dire que...
On a tout notre temps, sans
voilà. Non, mais parce que c'est pas forcément ce que je dis là qui est le plus important par rapport à la parole des survivantes, mais en tant que journaliste, je pense que ça me donnait l'idée que il y avait une nouvelle forme de journalisme possible, un peu à la manière dont on a fait La Vie en Rouge. On va dire aussi que c'est le monde des associations et sociales, de faire l'action dans l'égalité entre les personnes, mais vraiment qui me donne vraiment une idée sur ce que pourrait devenir un journaliste qui soit vraiment un journalisme qui soit vraiment intéressant.
C'est vrai que ça me parle tout à fait, parce qu'en tant qu'animatrice d'émissions de radio depuis... plus de 40 ans, peut-être pas loin de 50. C'est mon propos, en fait. Moi, vraiment, ce qui me passionne dans les émissions que j'ai faites depuis toujours, ça a été de donner la parole. Évidemment, j'en prends des choses. Moi, à chaque émission, j'ai appris quelque chose. À chaque émission, j'ai rencontré une personne ou plusieurs. Et moi, c'est ça qui me motive à continuer et à faire ces émissions, parce que je trouve effectivement, c'est d'une banalité grave pour les féministes, c'est que les femmes ont moins la parole que les hommes, c'est que les personnes survivantes de la prostitution ont moins la parole que celles qui se revendiquent travailleuses du sexe et qui... oblitère complètement la parole des survivantes, qui sont majoritaires, enfin, que c'est des travailleuses du sexe qui se revendiquent comme telles, sont les minorités, et on ne donne pas la parole à la majorité des personnes qui subissent le système professionnel. Et donc, moi, j'ai vraiment mon propos dans les émissions, évidemment que je parle un peu, pour rebondir, pour questionner, j'ai un souci aussi, évidemment, de donner la parole, mais aussi que pour les auditrices et les auditeurs, ça leur permette de réfléchir mieux à des sujets auxquels ils n'ont pas encore réfléchi, ou pas beaucoup réfléchi, ou ils sont laissés submerger par les préjugés. Et c'est en ça que moi, je trouve la parole des survivantes, depuis la première fois que j'en ai entendu en parler. Moi, je pense que pour moi, la première survivante que j'ai rencontrée, c'est Rosanne Hischer, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça a été extrêmement parlant pour moi. C'est, j'ai dit, ah mais oui, mais c'est elle que je veux entendre. Les autres, non.
La construction du podcast, c'est vrai que ça a été vraiment redonner la parole et redonner une forme de pouvoir en fait aux survivantes et à nous qui avons vraiment subi en fait pendant très très longtemps. Et c'est assez formidable. Enfin, dans la partie communication, etc. On a du coup été interviewé par une journaliste du Monde, donc il y a un article qui est sorti sur mon histoire, Rosalie, qui parle justement de toute ma vie, en gros. Et c'était vraiment... c'était très touchant parce que ça s'est très bien passé. J'ai pas toujours eu des très bonnes expériences avec les journalistes, mais là, pour le coup, c'était super. La journaliste, elle était vraiment... on avait cadré en termes de temps, etc. J'avais le droit de dire ça, je veux pas que ça soit dit, etc. Parce que c'est quand même, ça en vient de ma sécurité, en fait, pour me protéger vis-à-vis des proxénètes et de tout ce monde-là. Donc, j'ai vraiment apprécié toute cette expérience de cet article. Et donc, quand l'article est sorti, il y a vraiment eu une pic d'écoute, ce qui est très touchant pour moi, parce que ça veut dire que voilà, les gens ont eu envie d'écouter et ont eu envie de savoir comment est-ce que ça se passe réellement en France, en fait, et dans ce monde dans lequel on vit.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Tu as servi le corps des femmes. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté immortelle, je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un valeur. Porte femme, porte mon âme, porte ma vie, porte mes draps. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir, savoir pourquoi. Femmes.
Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix?
Merci beaucoup.
Bravo Mathilde qui nous chantait Le corps des femmes. C'était un concert au Café de la Danse en 2019. Merci Mathilde pour toutes tes chansons que nous aimons beaucoup sur Radio Libertaire. 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Nous sommes toujours dans Remue Méninges féministe jusqu'à 14h30 avec nos invités dans le studio.
Et donc toujours avec Rosalie et Sandrine, encore merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour partager votre vécu et votre analyse du système prostitutionnel. On vient donc de présenter comment s'est construit le podcast, que ça vous a apporté, comment vous avez travaillé à le faire connaître. J'aimerais maintenant que vous partagiez quels ont été les retours que vous avez eus. Enfin, tu as parlé d'un article dans Le Monde, mais il y a eu d'autres retours. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément là-dessus?
Alors bon, ça c'est plus moi qui ai suivi en tant que chargée de communication. On a eu quand même 3, 4, 5 articles, donc en plus de l'article du Monde, entre la radio, la presse, la dépêche AFP. Il y a eu un autre moment important qui a été que... quand la stratégie gouvernementale pour appliquer la loi abolitionniste a été présentée début mai, c'était donc à l'époque la ministre de l'époque qui avait fait c'était Aurore Berger qui a présenté cette stratégie gouvernementale et qui a invité les survivants de la vie en rouge à venir et à parler. Donc il y avait Rosane Nicher, Lexi, Anne qui était et une autre qui est pas dans la vie en rouge, Hope, qui était présente pour parler avec les journalistes. Mais ça, clairement, le fait que le podcast soit disponible, que pour la première fois, il y a quand même 7 survivantes qui ont fait ensemble ce podcast, c'était important. Ah oui, j'en profite pour signaler que c'était assez extraordinaire, parce que la même semaine où, le lundi, en France, on a sorti La Vie en Rouge, le mercredi, et on a découvert ça, moi j'ai découvert ça la semaine même, la CATW, Coalition contre le trafic des êtres humains, qui est la grosse association abolitionniste aux États-Unis, sortait avec des survivantes, dont Melanie Thompson en particulier, états-unienne, un podcast de survivantes qui s'appelait Exit Wounds, les blessures de la sortie de prostitution, qui a eu une dizaine d'épisodes. En même temps, voilà. Donc c'est vraiment un mouvement global quand même où il y a de plus en plus de femmes qui prennent la parole, qui s'organisent pour le faire et qui le font à la façon dont elles souhaitent le faire.
Après, qui plus est, avec un regard très critique sur la prostitution, parce que des femmes parlant de la prostitution, il y en a déjà eu. Je pense notamment à une qui s'appelle Griselidis, mais qui la romantisait, qui faisait croire à une liberté de se prostituer, alors que là, toutes les survivantes, elles sont plutôt à dire que c'est pas une liberté de se prostituer.
Oui, après, il y avait aussi des témoignages de femmes, que ce soit Jeanne Cordelier aussi, ou Nelly Arcand, où c'est beaucoup plus complexe et absolument prodigieux. Mais là, je parle d'un podcast avec 7 voix de femmes ensemble et à l'époque actuelle.
C'est plus un mouvement, c'est plus collectif.
C'est plus un mouvement collectif. Voilà.
C'est ça qui est intéressant à constater.
Et oui, parce que c'est aussi une des grandes choses contre lesquelles il faut lutter. Ils nous ont divisé les femmes dans la chanson. Bah, c'est dans l'isolement, dans la prostitution, c'est encore bien pire que dans tout le reste.
Dans toute ta
vie. Alors, sur les messages qu'on a reçus, on a reçu beaucoup de messages via Instagram, via les réseaux sociaux. Beaucoup de commentaires sur YouTube, extrêmement, grateful, reconnaissant aux survivants de prendre cette parole de soutien. Et parmi ces commentaires, il y a évidemment des gens qui sont observateurs, observatrices, mais qui étaient déjà convaincus par le positionnement qu'ont les survivantes et du fait que la prostitution le système prostitueur est un monde de violence. Mais il y en a aussi qui ont écrit sur LinkedIn, j'avais une vision un peu romantisée de la prostitution, vraiment maintenant je ne peux plus penser pareil, etc. Des gens qui ont écouté toute la saison. Et qui à la fin disent ça. Il y a aussi de nombreuses femmes qui, survivantes ou survivants, qui nous ont écrit parfois un message privé pour dire merci pour vous parler. Peut-être que ça me donnera à moi aussi la force de le faire. En tout cas, je vois que c'est possible. Et je sais qu'il y a un compte Instagram qui s'est créé d'une femme qui depuis raconte tout ce qu'elle a vécu dans la prostitution, etc. Et après, il y en a d'autres qui l'ont contacté pour à leur tour enregistrer le podcast. Ensuite, puisque à la fin, c'est Rosalie d'ailleurs qui disait ce message, qui expliquait comment ça a été fait et qui disait si vous aussi vous avez connu de la prostitution et que vous souhaitez en parler, vous pouvez nous contacter. Donc sur le compte Instagram, sur le compte TikTok ou via le mouvement du Nid aussi. Et dernière chose, depuis notamment à partir de cet été, donc une fois que la saison était finie, on a été contacté à plusieurs reprises par des personnes qui ont juste écouté le podcast et qui se disent bon, moi aussi je veux devenir bénévole, puisqu'à la fin du podcast on dit que c'est le mouvement du Nid qui a soutenu le podcast, et j'aimerais bien devenir bénévole suite à l'écoute du podcast. Alors ça aussi c'est très fort.
Qu'est-ce que ça veut dire devenir bénévole au mouvement du Nid? Ça veut dire faire quoi?
Ça veut dire beaucoup de choses. Devenir bénévole au mouvement du Nid, ça veut dire d'abord aller voir une équipe de terrain. On a 26 délégations à travers la France métropolitaine et la Martinique. Et donc de rencontrer nos équipes bénévoles de terrain pour voir avec elles comment agir concrètement.
Et on a 6 axes. Toutes les équipes ne font pas forcément tout à fait la même chose, ça dépend de la réalité du terrain.
Voilà, c'est ça. Donc on a 6 axes d'action principaux, hein, la rencontre sur les lieux de prostitution, que ce soit la rue, la forêt, Internet aujourd'hui, l'accompagnement, inconditionnel évidemment, de toutes les personnes qui souhaitent quelque chose, qu'elles veuillent sortir de la prostitution ou pas. Nous, notre accompagnement, son objectif, c'est d'être vers la sortie des violences. Mais évidemment, on ne dit pas aux personnes, on les accompagne là où elles en sont, quoi. Alors, on ne dit rien aux personnes sur ce qu'elles doivent faire. C'est elles qui décident de ce qu'elles veulent faire avec nous. Ensuite, on a la formation auprès des professionnels, parce que ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup depuis la loi, et on a énormément... on ne fait pas de la formation auprès des professionnels tout de suite quand on devient bénévole, mais ça peut venir un jour. De la prévention dans les collèges, les lycées, tous les lieux où il peut y avoir des jeunes, sur une éducation à la vie affective et sexuelle, libérée de la violence et de la marchandisation. Et sensibilisation et plaidoyer aussi également. Donc on peut participer à plein de choses, on peut participer à la revue. Mais il y a tout un processus d'intégration de l'association où on peut choisir ce qu'on sent le mieux de faire, et ensuite il y a un processus de formation.
Bien sûr. Est-ce que tout à l'heure, quand on a parlé de la loi de 2016 et notamment de la pénalisation des clients, dans cet axe-là, pénalisation des clients, il peut être question de stages de sensibilisation pour les clients. Est-ce que le Mouvement du Nid en organise, ou est-ce que c'est plutôt d'autres associations?
Alors, pour que des stages clients existent, il faut que le parquet se soit emparé de la question et décidé de les organiser. Ensuite, ça se fait en partenariat avec des associations de suivi socio-judiciaire et des associations spécialisées comme le Mouvement du Nid. Donc nous, on participe aux stages clients dans 5 ou 6 départements.
C'est pas institué partout déjà?
Non, pas du tout. Et c'est en région parisienne, c'est plutôt la Fondation Celle qui le fait, notamment à Paris et dans le Val d'Oise. Et c'est là où il y a eu le plus de verbalisation, donc où il y a eu le plus de clients prostitueurs en stage, au moins 1000. Et donc nous, on participe dans pas mal de départements. Et quand on y participe, il y a des survivantes qui ont été associées aussi. C'est particulièrement difficile et délicat quand même. Il y avait, et je vais en profiter pour dire un mot mots de Laurence Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez
elle
de Laurence,
qui a écrit
un livre remarquable, Renaître de ses hontes, et qui a appelé le mouvement d'Uni quand elle avait 17 ans et était sous l'emprise de proxénètes à Paris, rue Saint-Denis. Le jour même, elle a été sortie aidée à sortir de la prostitution par le mouvement d'Uni de l'époque, c'était dans les années 80. Et ensuite, elle a mené un peu, elle a témoigné en 87 pour notre vue. Ensuite, elle a vécu sa vie, puis elle est revenue militer au cours des années 2000-2010, donc quand elle a écrit son livre pour la loi de 2016, et malheureusement elle est décédée il y a un mois à peu près. Elle avait seulement 57 ans, mais elle avait une grave maladie, et c'est vraiment sa
voix.
Elle
était fragilisée aussi par son passé.
Alors ça, c'est pas à moi d'interpréter ça, je vous donne les faits, mais on peut imaginer ça évidemment, mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait une force, une... Quand elle parlait, dirait Claudine, le gardinier, on entendait les mouches voler. Enfin, vraiment, tout le monde se taisait. Et elle a notamment... Elle est extrêmement émouvante. Et il faut savoir ce que ça lui coûtait de témoigner. Elle disait qu'elle était malade 3 jours avant et 3 jours après. Elle a témoigné devant l'Assemblée nationale au moment de la préparation de la loi. Et ensuite, elle a participé au stage client. Où elle disait que pour elle, ça a réparé quelque chose, parce qu'enfin, elle pouvait dire en face à, voilà, ce que, et à des gens et à des hommes qui l'écoutaient. Et puis Rosanne Hichère, l'autre survivante, elles ont fondé toutes les deux le mouvement des survivantes, a aussi beaucoup participé et énormément participé au stage à Paris. Voilà, il y a énormément de choses à en dire. Voilà, parce que c'est vraiment aussi des lieux où on découvre des choses incroyables. Voilà, bon, c'était long un peu, mais c'était pour parler des survivantes qui y participent. Et vraiment, voilà, c'est très très courageux de leur part de l'avoir fait, parce que je pense que c'est difficile pour...
Tout à fait, voilà. Bravo, merci.
Je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas. Qui vivra verra. C'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Visage durci, geste tout petit. Désir tenu en laisse, comme une meute de caresses. Et derrière les dents, les mots importants, si simples et utiles, quand s'ouvriront-ils? À se croire éternel, on fâche le soleil qui dépose en chemin des taches sur nos mains. Avant qu'elle nous couche, brûlons nos cartouches, saccageons nos cœurs pour tromper la peur. Siffler, arrête de dire, ça presse pas, qui vivra verra. C'est...
c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer.
Michel Bernard, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Radio Libertaire 89.4, Remue Ménage féministe, jusqu'à 14h30.
Et donc nous sommes toujours avec Rosalie et Sandrine pour évoquer le podcast La Vie en Rouge, un podcast conçu et réalisé par des femmes ayant connu la prostitution, qui est disponible sur plusieurs plateformes de téléchargement. Donc La Vie en Rouge, que je vous invite à écouter. 18 épisodes ont déjà été diffusés pour la saison 1 et vous êtes en train de préparer la saison 2. Alors, qu'est-ce que vous faites pour préparer ça ?
Alors bon, donc je vais commencer, mais je vais dire rapidement. On a donc été contactés aussi par des femmes qui souhaitaient à leur tour témoigner. Et il y a 15 jours, on a fait une soirée à l'occasion de la venue de Valérie Tender, qui a aussi participé au podcast. Et où elles sont, c'est encore Rosalie qui a animé, donc on pourrait dire, mais qui a posé la question à deux qui étaient là, Ambre et Sabine, de ce que ça leur faisait de participer à la saison 2. Et à ce moment-là, aujourd'hui, toutes les deux enregistrées, on a déjà fait 3 enregistrements. Et elles ont dit vraiment ce que ça leur avait fait la saison 1, je ne sais pas si tu te souviens, la saison 1, et pourquoi elles voulaient faire la 2.
Oui, c'était très touchant parce que, en fait, en écoutant le podcast de la saison 1, elles se sont dit qu'elles voulaient faire la même chose et que c'était très clair et qu'elles voulaient participer à ce mouvement de libération de la parole. Donc, il y a deux personnes qui étaient là, qui étaient à la soirée. Du coup, il y en a d'autres qui vont participer à la saison 2. Et les deux, c'était vraiment. Comment dire ? Ça donnait cette impression qu'on leur tendait la main et qu'elles la prenaient, quoi, qu'elles allaient venir avec nous et puis on les emmenait dans l'aventure, quoi. C'est très. C'était vraiment un moment. je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc c'était. C'est magnifique de voir ça parce que quand on a commencé la saison 1, on ne savait pas où est-ce qu'on allait, quoi. On ne savait pas s'il y aurait une saison 2, on ne savait pas si ça allait vivre, etc. Maintenant, on se dit, waouh, il y aura une saison 2. Et puis l'autre jour, on discutait de la saison 3. Donc voilà, c'est vraiment très encourageant. Et puis on se dit. Au final, que ça permet à des gens de vivre mieux, en fait. Ça permet à des personnes qui ont survécu aussi de vivre mieux le fait d'avoir survécu et de pouvoir en parler à d'autres et de dire, voilà, c'est ça qui m'est arrivé et j'ai pas de raison de me cacher, quoi. Et c'est vrai que ça, moi, ce que j'ai trouvé super important dans la saison 1, c'est que ça donne des clés de lecture qui sont différentes, ça met des lunettes différentes sur la société, sur la prostitution, sur les violences masculines, sur qu'est-ce que ça fait de entre guillemets gagner de l'argent comme ça, etc. Donc c'est chouette de voir quand les gens s'emparent de ces nouvelles informations et de ces ajouts pour pouvoir construire quelque chose d'autre pour eux-mêmes, en fait, et pouvoir avancer dans leur propre vie, dans leur propre chemin. Parce que dans les deux qui étaient là, du coup, à la soirée de lancement, il y en avait une qui est, je pense, plus jeune que moi, qui doit avoir dans la vingtaine, et l'autre qui avait 60 ans environ. Du coup, c'est vrai que ça touche des personnes qui ont des vécus complètement différents, qui ont des passés complètement différents, et pourtant elles se sentent toutes les deux concernées et elles ont envie d'être là, quoi. C'est vrai que c'est super impressionnant, enfin, c'est enrichissant et c'est impressionnant.
Je pense qu'il y a aussi cette prise de parole pour chacune, c'est avoir un peu plus de force chacune, et c'est aussi avoir un peu plus de forme toutes ensemble, parce que j'ai envie de dire, c'est pas un joli mot, mais un peu l'empilement des témoignages renforce chaque témoignage, peuvent aider à la prise de conscience pour les personnes qui ont besoin de comprendre mieux ce que ça fait aux personnes, est-ce que c'est leur vie. Et il y a les deux aspects, quoi. C'est ce que ça fait pour chacune, cette prise de parole, cette reprise un peu de confiance en soi, d'assumer son histoire avec toutes ses douleurs, ses difficultés, mais de puis en avoir honte, en fait, et ce que ça fait d'un travail collectif, tu le dis bien, et on n'est pas à la télé, on n'a pas les gestes, mais tu montres bien dans tes gestes comment ce lien de sororité, de solidarité se construit.
Oui, je trouve que c'est vraiment chouette parce que, par exemple, quand on était en train de discuter avant de passer et de discuter et d'avoir ce moment devant tout le monde, on discutait du risque de retomber dans la prostitution. Et il y en a une qui dit ah ouais, moi j'ai tout le temps peur parce que je me dis si ça réarrive, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais y retomber, et en fait c'était incroyable parce que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que le risque existait pour tout le monde et était dans la tête de tout le monde. Et en fait, du coup, par ce biais-là de dire moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, on s'est senti moins seul et on s'est senti plus légitime. Et puis c'était moins bizarre, en fait. C'était pas bizarre, c'était complètement normal comme sentiment. Et c'est vrai que ça fait du bien de se sentir comme ça parce que c'est pas facile de trouver des gens avec qui discuter de ça et de dire moi aussi en fait c'est pas une évidence quoi.
Et c'est très très fort effectivement parce que Sabine a dit je ne suis plus toute seule sur scène, Ambre a dit c'est en effet extrêmement consolant de vous entendre, de dire que c'était possible de parler, que j'étais fière de vous et que peut-être je pourrais si je parlais être fière de moi-même. Mais là, on entend bien dans tout ce que vient de dire Rosalie, c'est-à-dire ce fardeau immense qu'on doit se porter toute seule. Et si à un moment donné, on ne peut plus être complètement toute seule, et ça, c'est aussi toute la philosophie du mouvement du nid aussi de prévoir ça. Et que fait cette rencontre, elle nous dépasse totalement, la rencontre encore entre survivantes. C'est-à-dire que ça dépasse toutes les espérances les plus fortes qu'on peut avoir, mais il se crée quelque chose entre vous et avec nous, et moi en l'occurrence, qui montre effectivement un peu ce que ça pourrait être un après, un monde après tout ça.
Un monde d'après, ce serait un monde sans prostitution.
En tout cas, oui, il y en a beaucoup moins. Et oui, bien sûr.
Oui, et puis un monde où y aurait au final plus de personnes qui seraient à même d'écouter, d'entendre, d'accueillir la parole, en fait. Parce que c'est vrai que le fait que la prostitution n'existe plus... je pense pas qu'on je le verrait.
On a du mal,
mal à l'imaginer, ça devient un peu, ça paraît utopique.
C'est bien les utopies dans la vie.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que le fait aussi de pouvoir en parler et de dire, de le dire et que les personnes en face se sentent pas complètement démunies face à cette parole de quelqu'un qui dit, c'est un peu comme aujourd'hui. Enfin, à une époque, quand quelqu'un disait j'ai été violée, on ne savait pas quoi dire. Ou alors on lui disait qu'elle mentait, ou alors on ne savait pas comment l'aider. Et c'est vrai qu'il y a un vrai travail dans la société actuellement d'apprentissage aux personnes, de dire c'est ça qu'on dit. Quand quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que vous répondez? Et en fait, c'est vrai que dans le cadre de ce podcast, c'est aussi un peu ce travail-là qu'on fait. Quelqu'un vous dit en fait, je suis tombée dans la prostitution, qu'est-ce que vous lui dites? Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Qu'est-ce qui peut être des choses qui vont lui faire la faire avancer, qui vont l'aider, etc., ou qui vont la soutenir? Parce que actuellement, c'est un peu comme à l'époque où on parlait du viol et on disait ça peut passer à autre chose. La prostitution, c'est pareil, c'est une forme de trauma gigantesque, donc on peut pas juste dire oublie, ça marche pas. Donc il faut apprendre en fait aux personnes qui font pas partie de la prostitution et qui font pas partie du monde, je dirais de la santé mentale de manière générale. Mais même dans ce monde-là, je pense qu'on peut en apprendre encore, on peut leur en apprendre beaucoup. Comment faire, quoi, qu'en fait, on reste des personnes et puis on reste des êtres humains et on a une vie après et que ça ne s'arrête pas là, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et qu'on n'entend pas assez. Et les gens ne savent pas quoi dire et ils sont mal à l'aise, ils sont malheureux pour toi, mais en même temps, il y a la réflexion du travail du sexe qui, du coup, cache en fait de manière gigantesque le trauma qui existe en dessous, parce que les gens s'imaginent que si on a été prostitué, t'étais travailleuse du sexe, donc on s'en fiche en fait. Mais pas du tout.
Peut-être même tu prenais ton pied quoi.
C'est ça. C'est comme si. Mais en fait c'est pas vrai. C'est une catastrophe. Donc c'est vrai que ça permet d'éduquer les gens à la gentillesse face à ça quoi, face à la prostitution.
Et au respect.
Et au respect, ouais. et à l'humanisation, en fait, de redonner une sorte de dignité et d'humanité aux personnes en situation de prostitution, parce que on est tellement déshumanisé, et où on est soit on est déshumanisé, soit on est je sais pas comment dire ça. On nous donne tous les travers du monde, c'est-à-dire on nous stéréotypise, quoi. Ouais. On devient un stéréotype, et quand on dit j'ai été prostituée, les gens se plaquent un stéréotype sur la personne, alors qu'en fait, c'est pas, on est toutes différentes. Ce stéréotype, il n'a pas de raison d'être.
Qu'est-ce que vous voudriez encore dire dans les quelques minutes qui nous restent ?
Moi, j'écoutais Rosalie, là. Hein, mais simplement, sur la deuxième saison, peut-être, on a déjà à peu près une dizaine de nouvelles personnes qui pourraient témoigner. Donc, c'est très impressionnant. On va essayer de faire le maximum pour arriver à enregistrer tout ça. Ça sera peut-être pas suffisant. Enfin, ça sera peut-être trop pour la saison 2, qu'on espère sortir à nouveau au printemps 2025. Les montages ont commencé, mais tous les enregistrements ne sont pas encore faits. Il y en a toujours des nouvelles personnes. Donc, voilà, c'est vraiment un mouvement important qui se fait avec, par et pour les personnes concernées, comme diraient d'autres. Et que, c'est pareil, voilà, s'il y a des gens qui veulent nous contacter... juste pour discuter, juste pour, parce qu'il faut savoir que ben, c'est pas comme quand c'est la presse, on vous dit pas ah oui je ne veux de toi que pour témoigner, c'est qu'il y a d'autres besoins, d'autres possibilités, on discute ensemble et on voit ensemble ce qu'on peut faire.
Oui, d'ailleurs c'est vrai qu'il y a plusieurs, enfin on a plein de choses qu'on peut faire après avec le mouvement Dini. Il y a eu plusieurs des personnes qui ont participé au podcast qui en fait ont eu de l'aide psychologique, par exemple. Nous, on est en train de mettre ça en place pour nous, de faire de l'art-thérapie, voilà, dans ce cadre-là aussi. Donc, c'est vraiment pas... C'est pas limité à ça, et c'est vrai que c'est agréable, parce que c'est pas que le podcast, quoi. On n'a pas l'impression d'être exploité pour notre parole, parce qu'il y a vraiment un donnant-donnant, quoi. Je veux dire, on récupère aussi une sorte de communauté, des gens avec qui on s'entend bien... Et beaucoup d'aide qu'on n'aurait pas par ailleurs. Enfin, j'aurais jamais imaginé, mais alors à des années-lumière, que je pourrais débarquer au Mouvement Dini un jour en disant « Bonjour, en fait, j'ai un vrai problème là, j'ai besoin d'aide. » Et qu'on me dirait « Oui, ok, d'accord, viens, on va trouver une solution. » Jamais. Quand j'étais en situation de prostitution, c'était même pas... D'abord, j'aurais même pas utilisé ce mot à l'époque. Et c'était pas quelque chose que j'imaginais, quoi. Ça paraissait un truc qu'il fallait cacher, que personne ne devait savoir. Et puis que si quelqu'un savait, c'était la catastrophe. Donc, en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de détruire aussi. C'est l'idée que si les gens le savent, en fait, c'est pas la fin du monde. C'est pas la catastrophe. C'est pas la fin de ta vie. Il y a d'autres choses qui peuvent se construire dessus. Et c'est vrai que c'était pas une évidence à l'époque. Hein. Mon Dieu, non. Pas du tout, du tout.
Merci beaucoup à toutes les deux et à toutes vos compagnes de lutte. Et revenez quand vous voulez dans Remue-Ménage Féministe pour nous parler de ce combat qui me paraîtrait symptomatique du combat contre les violences faites aux femmes. Pour moi, c'est une des violences les plus importantes à déconstruire et à lutter contre et à être solidaire avec les personnes qui en sont victimes.
Merci beaucoup, beaucoup à vous, et avec grand plaisir.
Merci.
Et donc, on rappelle qu'on peut contacter le Mouvement Dini sur Internet, on peut s'abonner à la revue Prostitution et Société, voilà. Et on peut soutenir financièrement le mouvement, qui est un mouvement qui repose essentiellement sur ses ressources propres, même s'il y a quelques subventions par-ci, par-là.
Quand même quelques subventions, mais effectivement, les dons, c'est très important. Donc, le site, c'est mouvementduni.org, et vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram et TikTok de La Vie en Rouge. Et du Mouvement Dini, évidemment.
Bonne fin de journée à vous. Merci. Encore
bonne
merci.
Journée, merci.
Merci et bonne journée.
L'une de l'autre ignorée, on s'est connue, on s'est regardée. On s'est parlé, on a chanté, avec l'envie de se raconter nos histoires et toutes nos idées. Mais tout ça s'était vite plié, le répertoire était pas épais. Où sont passées les héroïnes de la lutte et du quotidien? D'elles, il ne reste presque rien. Eh, eh, ah, eh, eh, ah, Dans les champs, lorsqu'on est présente, on est souvent seul et fragile. On se lamente dans une attente, soit repoussante ou bien sublime, objet sexuel ou bien victime. Dans cet idéal libertaire, nous sommes bonnes au linge à étendre. On ne veut plus être de ménagères, de la chair tendre à défendre. On ne veut plus se laisser taire. Comment faire une révolution quand dans nos imaginations, dans tous ces rôles bien genrés, nous nous retrouvons confinés et nos idées polluées. Quand on ne trouve dans nos chansons ni de guerrières ni d'héroïnes, et on vous parle même pas d'Aiguine, tout ce qui nous ferait rêver gamine, qui ferait rêver les frangines. Et si les chants qui nous ressemblent, on les écrivait tout ensemble, des chants qui racontent nos histoires et disent nos rages et nos espoirs, donnent du courage et du pouvoir. Si on se retrouvait frangine, ça nous ferait gagner du temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant, qu'on en dirait 20 fois autant. Et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens. Et qu'on ferait changer les choses, allez on ose, il est grand temps. Allez on ose, il est grand temps.
Remue Ménage Féministe se termine pour ce mardi 26 novembre 2024 et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, mardi 3 décembre, avec Kadia et Sylvie qui vont lancer un appel pour la création d'un musée de la résistance des femmes. Ancien casernement des troupes françaises depuis le milieu du 19e siècle, devenu en 1940 le premier camp allemand installé en France occupée, le fort de Romainville a été le camp d'internement pour des femmes et des hommes engagés dans la résistance et un point de départ vers les camps nazis. 40% des résistantes femmes sont passées par le fort de Romainville. Pour en parler, Sylvie et Kadia ont invité Sabine Pézier, professeure d'histoire et de géographie, présidente de l'Association des Amis des Musées, du Musée de la Résistance Nationale de Seine-Saint-Denis et engagée dans le comité de soutien pour la sauvegarde du fort de Romainville et pour la création d'un musée de la résistance des femmes. Bonne écoute mardi prochain et vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos podcasts, aussi bien sur radiolibertaire.net que sur le blogspot Remue Ménage Féministe ou Mixcloud Remue Ménage Féministe. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt.